Plus de 1200 perquisitions, 165 interpellations et 230 armes saisies.
Oui, c'est le bilan actuel des opérations de police menées sous le régime d'état d'urgence en France. Des opérations de police musclées que les autorités qualifient d'efficaces mais qui connaissent aussi leur débordement. Les exemples de ratés se multiplient ces derniers jours. Ariane Hasler, on vous retrouve à Paris. Vous avez recensé quelques exemples pour nous.
Oui, des exemples qui ont notamment été recueillis par le quotidien Le Monde, qui a créé il y a quelques jours un observatoire de l'état d'urgence, un blog qui recueille les témoignages, le quotidien anticipant les possibles dérives de ce régime d'exception qui élargit considérablement les pouvoirs des forces de l'ordre. Alors parmi ces exemples, eh bien, il y a Michael, 27 ans, qui regarde un film d'action dans le TGV Marseille-Rennes, c'est vendredi passé. En gare de Massy, le train est stoppé, évacué, la police saute sur Michael. Des passagers ont trouvé son comportement et son aspect suspect. Le jeune homme est barbu, il porte des gants. Choqué, il est libéré au bout de 4 heures. Alors il faut dire que depuis plusieurs jours, dans le métro par exemple, ici, ce message circule en boucle. Si vous repérez le moindre comportement suspect, contactez immédiatement les agents de la RATP. Autre exemple, dans le Nord, la police fait irruption en pleine nuit chez Fatima et sa fille au motif qu'un homme suspecté de détenir des armes de guerre a habité dans leur maison. La jeune fille raconte les lasers dans l'appartement, la porte qui vole en éclats, sa mère de 43 ans menottée pour une perquisition qui n'a rien donné. À Nice, enfin, c'est une fillette de 6 ans qui est blessée par des éclats de bois. La police a défoncé la porte de l'appartement de ses parents à 4h30 du matin. Or, c'est le voisin qui était visé. Les histoires de ce genre se multiplient, des descentes de police spectaculaires dans des restaurants, des mosquées, parfois forcément pour rien.
Beaucoup disent dommages collatéraux, Ariane, mais évidemment ce n'est pas ce que disent les personnes directement concernées. Est-ce qu'elles peuvent obtenir des dédommagements ?
Eh bien, en théorie, elles peuvent porter plainte pour violation de domicile et voie de fait sans garantie d'obtenir quoi que ce soit. Il est même possible, si les dommages causés ont été reconnus par la police, d'invoquer la responsabilité de l'État et d'adresser les factures directement au ministère. Dans certains cas, les forces de police et les préfectures ont déjà indiqué qu'elles indemniseraient les personnes concernées.
Ariane Hasler, notre correspondante à Paris.
Et avec nous dans ce forum, Yasser Louati, porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France. Bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Et Dominique Jamais, vice-président de Debout la France. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Dominique Jamais, on va commencer avec vous. Est-ce qu'on peut dire ceci, on ne fait pas d'omelette sécuritaire sans casser des œufs, sans dommages collatéraux?
Apparemment c'est le cas, oui. J'entendais à l'instant donc évoquer le cas de Michael, d'autres cas de perquisition brutale et si j'ai bien compris vaine dans certains cas, donc injustifiée par rapport aux résultats que l'on en attendait, que l'on n'a pas obtenu. Il me paraît tout à fait normal que les victimes de brutalité ou d'erreurs de la part des forces de l'ordre se fassent connaître les circonstances dans lesquelles se sont déroulées telle ou telle perquisition, et il serait tout à fait approprié que ces personnes obtiennent effectivement dommages et réparations. Mais enfin, il me semble, à moins que vous ayez des informations que je ne possède pas, que les dommages jusqu'à présent causés lors de ces perquisitions soient tout à fait hors de proportion avec les dommages humains causés par les attentats de Paris le 13 novembre. Je crois que ça n'est pas... il me semble qu'il n'est pas tout à fait anormal, pour vous résumer mon idée, il n'est pas tout à fait anormal que des mesures d'exception aient répondu effectivement à une situation tout à fait exceptionnelle.
Yasser Louati, Dominique Jamais nous dit que la sécurité est à ce prix, on ne peut pas agir contre le terrorisme sans enfoncer, ma foi, quelques portes et peut-être de temps en temps la mauvaise.
Ma première question à M. Jamais, et je vais l'entendre avec attention, c'est qu'il parle de, par exemple, c'est un dommage collatéral qui est quasiment nécessaire. Malheureusement, nous avons 1233 perquisitions, dont 90% n'ont abouti à rien. La question que je me pose maintenant, c'est de savoir, est-ce que nous menons une guerre contre le terrorisme pour la gagner, ou est-ce que nous menons seulement une bataille médiatique pour envoyer un message à l'opinion publique? Malheureusement, dans la quasi-totalité des cas, des personnes qui ont été ciblées, nous avons affaire à des citoyens ordinaires, qui apparemment sont de confession musulmane. Il ne s'agit plus maintenant de pénaliser une activité suspecte ou dangereuse, mais plutôt des comportements et voire même des intentions qualifiées comme suspectes. Maintenant, le message qui est envoyé à la communauté musulmane française, c'est que l'ennemi, ce n'est pas les terroristes, mais c'est vous, parce que, soi-disant, ces terroristes viennent de vos rangs. Le sentiment qui vient maintenant, malheureusement, du terrain, c'est que les citoyens de confession musulmane se retrouvent à payer la facture très, très salée en termes de libertés individuelles pour les échecs flagrants de nos services de renseignement. Donc maintenant, ce qui est quand même dommageable, c'est que les personnes qui ont échoué dans la protection des Français dans leur totalité se retrouvent maintenant décisionnaires pour réduire les libertés individuelles et cibler ces personnes justement parce qu'on les apparente à la communauté musulmane.
Dominique Jamais, il y a une forme d'amalgame là, plutôt du délit de faciès ou une communauté particulièrement visée au lieu de faire des perquisitions tout azimut, ce qui serait le but de l'état d'urgence quand il y a un réel danger au-delà de la religion.
Je crois qu'il faut d'autant plus garder son sang-froid et sa raison et son bon sens qu'une situation est plus exceptionnelle, plus grave, plus dangereuse. J'ai déjà entendu, et j'ai trouvé tout à fait curieux, le raisonnement, l'argument qui consiste à dire sur 100 perquisitions, 90 se sont révélées inutiles.
Si c'est le cas, on est clairement dans une opération de communication. Non,
attendez, je vais vous expliquer pourquoi je trouve ce raisonnement curieux. Il ne s'agit pas de communication. Si il n'y a que 10% des perquisitions qui ont été utiles, s'il n'y a que 230 armes qui ont été saisies, ce n'est pas un résultat insignifiant, ce n'est pas un résultat négatif. Rappelez-vous qu'il y a quelques jours, un certain nombre de gens se gaussaient de ceux qui disaient que le flux migratoire constaté pouvait charrier aussi des terroristes. Il est évident que les 800 000 personnes qui ont cherché à être accueillies en Europe ces derniers temps ne sont pas des terroristes.
Mais pour vous, il faut cibler ces populations, Dominique Jamais, cibler les musulmans, comme le dit Yasser Louatier.
Mais il est non moins évident qu'un certain nombre de terroristes se sont infiltrés dans ce flux migratoire. Et de la même façon, il faut quand même bien avouer qu'aucune parole, et Dieu merci, n'est sortie nulle part, sauf peut-être du côté du Front National, qui met en cause l'ensemble des musulmans. Non, les musulmans ne sont pas dangereux, non, les musulmans ne sont pas des terroristes, loin de là, mais tous les terroristes qui relèvent de Daesh, qui se réclament de Daesh, sont musulmans, on ne peut pas le nier.
Arrête immédiatement, Daesh n'a rien à voir avec l'islam, puisque eux-mêmes massacrent les musulmans. Donc ce serait une erreur flagrante de jugement de votre part, monsieur, en faisant une confusion abjecte entre idéologie politique et religion. Si maintenant vous dites que la plupart des terroristes sont musulmans, on se réfère aux statistiques d'Interpol et d'Europol qui montrent que la quasi-totalité des actes terroristes ne sont pas commis par des groupes dits musulmans. Mais maintenant, j'aimerais revenir vers vous concernant cet état d'urgence qui permet ces débordements. La guerre d'Algérie était quand même bien pire que ce que nous avons vécu le 13 novembre. Or, l'état d'urgence a été renforcé suite au 13 novembre. Et maintenant, nous n'avons aucune preuve que les personnes qui ont commis ces attentats étaient parmi ces réfugiés. Il faudrait quand même pas noyer le poisson dans l'eau en nous ramenant sur le terrain du débat, c'est-à-dire sur les populations réfugiées qui elles-mêmes fuient les groupes qui nous ont attaqués le 13 novembre. Donc s'il vous plaît, lorsque vous avez des mosquées qui sont littéralement saccagées par les forces de l'ordre, lorsque vous avez des chiens qui perquisitionnent des mosquées, alors que nous, tout le monde sait depuis très longtemps que les mosquées sont toutes surveillées, que les prêches sont écoutés, on sait très bien qu'on n'aboutira à rien, si ce n'est stigmatiser, humilier un peu plus des musulmans qui se retrouvent victimes des terroristes, des répercussions post-attentat et malheureusement de la brutalité de la réponse du gouvernement qui malheureusement semble vouloir rattraper le temps perdu. Vous dites que des armes ont été saisies, mais est-ce qu'on a attendu d'avoir 130 morts en France en plein Paris pour commencer à saisir ses armes?
Alors Yasser Louati, peut-être juste répondez à Dominique Jamais quand il dit peut-être que 90%, 90% des perquisitions sont inutiles, mais si ça permet à 10% de perquisitions d'être utiles, ça vaut la peine. Répondez juste sur ce point précis.
D'accord. Est-ce que ça justifie la brutalité avec laquelle ces perquisitions sont conduites? Est-ce que ça justifie la perquisition et la mise à sac de plusieurs mosquées? Est-ce que ça justifie qu'un jeune aveugle Je parle d'un jeune aveugle, soit perquisitionné et assigné à résidence. Il doit maintenant pointer 4 fois au commissariat, alors que c'est illégal, c'est 3 fois maximum.
Dominique Jamais.
Monsieur Loati répond avec véhémence à des choses que je n'ai pas dites. C'est tout à fait ridicule. Je ne savais pas que nous allions engager un débat théologique sur la fidélité à l'islam de tel ou tel. Je faisais court. Je voulais dire
que les gens d'Aïch...
On laisse répondre, s'il vous plaît.
Qui s'aise un peu. Hein, il a beaucoup parlé avec véhémence, qu'il me laisse lui répondre.
Allez-y, Dominique Jamais.
Je n'ai jamais dit que les gens de Daesh étaient de bons musulmans, mais il me semble qu'ils se disent musulmans. C'est dans ce sens simplement que je
les théologiens, monsieur, leur réfutent le terme de musulmans. Regardez l'ensemble des déclarations des théologiens à travers le monde, ils leur réfutent le qualificatif de musulmans. Si demain, moi, je commets un acte terroriste au nom de l'Australie, ça ne fait pas de moi un Australien et encore moins les Australiens responsables.
Dominique Jamais, c'est vrai que des musulmans qui n'avaient rien demandé étaient aussi parmi les victimes, donc on entend bien le risque d'amalgame de la part de Yasser Louat, il faudrait peut-être nuancer un peu.
Non, attends, nuancer un peu, je ne demande pas mieux, c'est même ce que je suis en train de faire. Disons les choses autrement, et peut-être que M. Louati acceptera de voir la vérité en face. Tous les gens, sans exception, qui se sont livrés à des activités terroristes ou qui ont commis des crimes ces derniers temps, l'ont fait au nom de l'islam, d'un islam dévoyé, d'un islam mensonger, mais au nom de l'islam, c'était pas au nom du parti radical de gauche ou des démocrates chrétiens, ça n'est pas une invention. Les attentats d'il y a quelques jours ne sont pas non plus une invention, et vouloir
d'accord,
mettre sur le même pied, sur le même plan, et s'en prendre mort, est indécent.
Yasser Louati, une question. Dans les années 70-80, c'était des militants d'extrême-gauche qui commettaient des attentats. C'est dans ces milieux-là que la police a ciblé ses premières opérations. Là aussi, ça paraît assez logique, non ? Cette action de la police n'est pas sociologique, elle va au plus vite.
Vous savez, il faut quand même... Je comprends parfaitement la question, elle est tout à fait légitime, et je vais y répondre. Maintenant, vous avez une question, une chose qui s'appelle le résultat. Nous avons des services de renseignement qui savent parfaitement ce qui se passe dans les mosquées. Est-ce que maintenant, c'est utile de perquisitionner des mosquées avec violence, de les mettre à sac et d'entrer avec des chiens en sachant pertinemment que c'est un sentiment d'humiliation pour les fidèles ? On n'oublie pas que les musulmans eux-mêmes font leur travail en signalant 4000 signalements par an sur les cas de radicalisation et que maintenant, si on poursuit ce raisonnement, on va cibler, on va dire, le coup de pied dans la fourmilière. Donc, lorsque des moines bouddhistes massacrent des musulmans en Birmanie, est-ce que c'est le bouddhisme ou les bouddhistes dans leur ensemble qui sont plus responsables ? On sait très bien que c'est une frange bien ciblée qui a une idéologie spécifique, qui se sert de la religion, peut se retrouver légitime. Ce raisonnement ne fonctionne pas. Lorsque George Bush, au nom du père supérieur qu'il invoquait, a envahi l'Irak, qui nous a maintenant enfanté ces groupes terroristes, est-ce que la religion chrétienne est responsable ou les chrétiens ? Absolument pas.
Dominique Jamais.
Ils viennent de chez les musulmans, donc il faut aller voir chez eux. Il faut aller voir chez les criminels d'abord.
Dominique Jamais, peut-être le dernier mot pour vous. Effectivement, ça interpelle quand on entend de la part de Yasser Louati que les forces de l'ordre savent ce qui se passe dans les mosquées, et malgré tout, et parfois même des imams leur ouvriraient la porte, les portes sont défoncées.
Attendez, mais la réaction de l'ensemble des musulmans à ce qui vient de se passer a été saine et positive. Alors maintenant, ne mettons pas de l'huile sur le feu, ne comparons pas, je le répète, un bris de porte avec les 130 morts qui ont été couchés sur le pavé. Nous n'avons pas en France... Nous n'avons pas en France la responsabilité des exactions que des bouddhistes en Birmanie font subir aux musulmans. Mais quand j'entends M. Louati dire que les services de renseignement sont parfaitement renseignés sur la nébuleuse de Daesh, il me semble au contraire tout à fait évident que les événements tragiques qui se sont déroulés ont montré qu'ils n'étaient pas assez renseignés. Il me paraît assez normal que l'on recherche les criminels avérés et les criminels en puissance. C'est
assez
normal.
Merci pour ce débat animé, s'il en est. Yasser Louati, porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France, et Dominique Jamais, vice-président du parti Debout la France. Bonne soirée.
Merci, monsieur. Au revoir.